Alors, on va continuer la deuxième partie de la leçon 1, on avait vu que le titre, c'était « La dépression chez les chrétiens ». Et on avait commencé à examiner un petit peu pourquoi on se devait d'examiner cette question-là. Alors, on avait vu que chez beaucoup de chrétiens, la dépression amène un sentiment de culpabilité et amène un sentiment aussi de se sentir un peu comme si c'était un chrétien de seconde zone. Alors, quelque part, on n'a pas toujours la facilité de déterminer la cause d'une dépression, si c'est physique, si c'est moral ou si c'est spirituel. Souvent, c'est les trois. Et bien malin, celui qui pense être capable de faire la part des choses. Des fois, ça prend du temps afin d'examiner et de y aller un petit peu comme par élimination. On avait vu que c'était... la semaine dernière, on avait vu que c'était un problème qui était très répandu. Actuellement, on dit qu'une personne sur cinq va expérimenter la dépression ou des attaques de panique un jour ou l'autre. Alors, souvent, lui, il met les deux ensemble parce qu'il dit que c'est fortement proche l'un de l'autre. Et on estimait à 121 millions de personnes dans le monde qui souffrent de dépression. Et que des études qui ont démontré que 5,8% des hommes et 9,5% des femmes vont expérimenter une période dépressive au cours d'une année courante. C'est beaucoup. Alors, quelque part, partout autour de nous autres, on va en avoir de plus en plus, je pense. Alors, quelque part, je pense que c'est nécessaire qu'on regarde ce que la Bible enseigne sur ce sujet-là, de manière à ce qu'on puisse s'ajuster et se comporter en aidant, et non pas en personne qui peut même nuire et même aggraver la situation de la personne. Donc, on avait dit qu'il y avait 8 raisons pour lesquelles on se doit d'étudier le phénomène et on avait commencé à les regarder une en arrière de l'autre. La première qu'on avait regardée, c'est la première raison, c'est que la Bible en parle. Et là, on avait regardé la semaine dernière certains personnages des Écritures qui ont connu, si ce n'est pas des dépressions, c'est sûrement des états dépressifs. On avait regardé Moïse, on avait regardé Anne, on avait regardé Jérémie, on avait regardé... Élie, on avait regardé Job, on avait regardé les psalmistes. Alors, le livre des psaumes est un livre très riche pour parler du phénomène, ce qu'on pourrait appeler, en québécois, on appelle ça des downs, des personnes qui... Une dépression, c'est ça, hein, c'est la pression qui s'en va. Alors, on avait regardé un ou deux psaumes, on avait regardé deux psaumes, et on est loin d'avoir épuisé le sujet. Si on prendrait juste toutes les 150 psaumes, on tirerait de ça, qu'est-ce qui parle d'état dépressif chez l'être humain, on verrait qu'il y en a beaucoup. Alors, la Bible en parle clairement. Alors, il y avait un pasteur américain qui s'appelle Steve Bloom, qui lui-même a traversé une période de dépression sévère. Il a écrit la phrase suivante, il a dit « Les psaumes traite de la dépression plus réalistement que les meilleurs livres populaires. David et d'autres psalmistes ont connu la dépression pour différentes raisons. Ils ne s'excusaient pas pour ce qu'ils ressentaient, ni ne les confessaient nécessairement comme un péché. » Alors, des fois, la dépression a peut-être causé par le péché, mais pas nécessairement. À quelque part, il ne faut pas faire des auto-conclusions trop vite, comme on dit. Alors, c'était dans leur vie une part légitime de leur relation avec Dieu et ils interagissaient avec le Seigneur à travers le contexte de la dépression. Quand on lit ces psaumes-là avec attention, on voit qu'ils n'ont pas peur d'épancher leur âme à Dieu. Alors, il y a de la souffrance là-dedans. Il y a un verset qui est significatif dans le livre des Proverbes. C'est le Proverbe chapitre 18 au verset 14. Ça dit... L'esprit de l'homme le soutiendra dans la maladie. Mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Il y a quelque chose de très brillant là-dedans, c'est la parole de Dieu qui parle. Alors l'esprit humain peut aider les personnes à traverser toutes sortes de périodes difficiles dans la vie. Cependant, comme le déclare le pasteur Steve Bloom, lorsque c'est le mécanisme de guérison qui a besoin d'être guéri, c'est un problème des plus sérieux. Alors, on a regardé la première raison, parce que la Bible en parle. C'est la première raison quand on parle de la dépression, parce que la Bible en parle. La deuxième raison, c'est que le problème est répandu. Alors, on a parlé tantôt que les statistiques indiquent qu'une personne sur cinq expérimenterait la dépression ou des attaques de panique un jour ou l'autre au cours de sa vie. La science médicale utilise de plus en plus le terme dépression-anxiété avec un trait d'union. Donc, on ne parle pas juste de dépression, ils ajoutent à ça les états d'anxieux qu'on appelle, et ils mettent ça dans un groupe particulier, la dépression-anxiété. Alors, on parlait de 121 millions de personnes, 5,8% des hommes, 9,5% des femmes. C'est beaucoup, là. On parle de 10% presque chez les femmes qui vont connaître un état de dépression un jour ou l'autre. Alors, c'est une personne sur 10. C'est presque impossible qu'on vive, qu'on ait des amis, qu'on ait des connaissances, qu'il n'y ait pas quelqu'un au moment donné autour de nous qui vive ça. Et on n'est pas toujours armé. On n'a pas toujours les connaissances nécessaires et la sagesse nécessaire pour savoir comment aider. Parce que souvent, on dit des âneries. Au cours des semaines qui vont suivre, on va voir que il y a des choses à dire, mais des choses à pas dire à des personnes qui sont dépressives. Alors, souvent, le suicide aussi, c'est le résultat d'une dépression. On dit même que c'est la cause majeure des décès violents dans le monde, 49,1%. Alors, si vous prenez toutes les causes de décès violents, c'est quasiment 50% qui sont reliés à la dépression. Plus que ceux qui sont causés par la guerre et plus que ceux qui sont causés par homicide, donc les meurtres. À quelque part, c'est quand on regarde la nature du problème et son étendue, ça fait littéralement peur. Alors, il semble que le problème ait atteint de nos jours des proportions endémiques, autrement dit, épidémique, c'est rendu presque une épidémie. On entend parler de plus en plus souvent. J'étais à Rouen, on n'était pas une toute petite église, il y en avait. Je suis allé dans d'autres églises, il y en a partout. Je me souviens, dans le temps que j'étais à Cornwall, il y en avait des cas, là, partout. Fait que, moi, j'avoue que je suis content que le Seigneur ait mis cette petite brochure-là sur ma route parce que je l'ai lue. Ça m'a encouragé, premièrement, et ça m'a formé aussi jusqu'à un certain point. Mais c'est sûr que je peux aller beaucoup plus loin parce qu'il donne beaucoup de bons livres à étudier qui ont été écrits, soit par des chrétiens ou des non-chrétiens, mais que lui juge comme étant valables, qu'on se devrait d'étudier. Parce que si c'est vrai que c'est une personne sur 10, tôt ou tard, peu importe le nombre qu'on est, on va en rencontrer et on va avoir à interagir avec eux. Alors, il semble que oui, le problème a atteint des proportions endémiques. Plusieurs soupçonnent que ceci soit la conséquence de l'état déplorable de l'Église en général. Quand on se met à regarder l'ensemble des problèmes qu'il y a dans les églises locales, dans son ensemble, on se rend compte que fort probable qu'il y a une cause à effet, là, à cause de l'état déplorable. Alors, on entend souvent parler de division dans des églises. Moi, je n'ai déjà vécu dans une église, je vous avoue que c'est très pénible. Quand la chicane pogne dans une église, puis que ça finit par, comme on dit, split, c'est une division, ça se divise, ça s'en va, et les gens sont des fois malheureux. Ils sont souvent amers, ils sont souvent pleins de. Il y a beaucoup de péchés qui se commettent à l'intérieur de ça. Et ça cause des problèmes à l'intérieur de l'Église, à la fois chez ceux qui s'en vont et à la fois chez ceux qui restent. Alors maintenant, on sait que c'est pas toujours le péché qui amène un état de dépression. Parfois, ça peut être physique, d'autres fois, c'est moral, d'autres fois, c'est. Alors. On est de plus en plus témoin d'une incessante mauvaise représentation et de persécution des chrétiens à travers les médias écrits et électroniques. Quand vous regardez dans l'ensemble, les chrétiens sont de plus considérés comme des bêtes bizarres dans les médias. Alors ça a un effet ça rend les gens dépressifs. Alors aussi, on est submergé par les nouvelles où on entend parler que dans la terre entière, des guerres, du terrorisme, des désastres naturels et plein d'autres problèmes encore. Alors, il ne faut pas se surprendre que certains chrétiens réagissent profondément et connaissent des états de dépression et d'anxiété. Tous sont plus ou moins affectés. Les chrétiens individuellement, les églises locales et les citoyens en général. Troisième raison, c'est que ça a un impact sur notre vie spirituelle. Alors, on sait qu'on a un corps et une âme, mais il y a une troisième dimension qui lie ou qui chevauche les deux éléments, c'est nos pensées et nos sentiments. Quand notre corps est malade, récemment, j'ai juste eu une petite rhume, on vient d'ombre, et là, on essaie de lire, on dirait que l'esprit est embrouillé, il y a de la misère à lire, il y a de la misère à ce qu'on... Juste une petite affaire, ça ne prend pas grand-chose, on est fragile, fragile, fragile. Alors, quand on expérimente un rhume, une grippe, notre vie spirituelle en est influencée. Ça nous dit-tu de prier dans ce temps-là? Ça nous dit-tu de lire notre Bible dans ce temps-là? Alors, ça a un effet sur notre vie spirituelle. Alors, souvent, les croyants déprimés peuvent difficilement se concentrer pour lire ou pour prier. Puis ça prend pas grand-chose, on le sait. Alors, et comme les personnes déprimées veulent rarement rencontrer d'autres personnes, excepté leur très proche entourage, je vous parlais tantôt de quelqu'un qui ne veut plus voir personne. La seule personne qui va tolérer, c'est souvent son proche, le mari ou un des enfants. Ou, ils veulent même pas recevoir de visite, puis ils veulent pas se faire, même pas qu'une personne tente de les encourager. Alors, les personnes déprimées se sentent souvent comme abandonnées de Dieu. Ça, c'est le pire sentiment qu'un être humain ne peut pas vivre, se sentir abandonné de Dieu. Jésus, quand il était sur la croix, il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est le sentiment, c'est écrasant, c'est plein d'anxiété, c'est quelque chose de très grave. Alors, la foi... au lieu d'être une aide, cause parfois des problèmes supplémentaires. Par exemple, la fausse culpabilité qui est associée avec la fausse conclusion que les vrais chrétiens ne connaissent pas de dépression. Ça, je l'ai vu, je l'ai entendu, même par des pasteurs. Il y a des pasteurs qui m'ont dit, je dis, ben voyons, elle, là, est toujours dépressive. Voyons, là, on va voir si quelqu'un Seigneur sauve quelqu'un et il laisse une personne dans cet état-là. À l'époque, je n'avais pas ce qu'il fallait, mais il ne faudrait pas que je me le redise aujourd'hui, parce que là, je dirais quelque chose. Alors, les croyants ou les croyantes déprimées ont tendance à voir la cause de leurs problèmes, de l'associer à leur vie spirituelle, à leur relation avec Dieu, ce qui augmente leur fausse culpabilité et leur faux sentiment d'inutilité. Alors, quelque part, tu souffres déjà. Puis en plus, tu as tendance à te culpabiliser et à te dire, bien, c'est sûrement parce que je ne marche pas correct. C'est sûrement si, c'est ça. Alors, tu sautes aux conclusions. Eux autres même sautent aux conclusions. Puis souvent, dans certains milieux, on associe tellement la dépression au fait que la personne a péché que là, la première question que la personne va aller voir quand la personne est déprimée, « Y a-tu du péché dans ta vie? » S'il y a quelque chose que la personne n'a pas besoin d'entendre, c'est ça. Ça se peut qu'il y en ait, mais il ne faut pas que tu sautes trop vite aux conclusions. La quatrième raison, c'est que la prévention, c'est qu'on se doit de la prévenir ou de mitiger les effets. Autrement dit, la dépression, ça va être pénible à vivre, peu importe, mais on peut essayer de la prévenir ou on peut essayer de diminuer les effets douloureux, mitiger les effets. Alors, plusieurs personnes, semble-t-il, ont des prédispositions génétiques à la dépression. Moi, je ne m'aventure pas dans ce terrain-là, parce que là, c'est médical, je connais pas ça. Il y en a qui disent que c'est possiblement traçable aux gènes de leurs parents. Non plus, je ne m'embarque pas là-dedans, mais je parle de ce qu'on dit, en général, dans les milieux qui connaissent la dépression. Alors, cependant, même dans ces cas, la connaissance de d'autres facteurs qui peuvent être impliqués dans la cause de la dépression peuvent parfois aider à la prévention, ou du moins à la mitigation ou à une plus courte durée. Autrement dit, des fois, c'est long, là. Je parlais avec la personne que je vous ai parlé tantôt, là. Ça fait trois ans. C'est long, 3 ans. C'est plus que 1000 journées, là. C'est très long. Alors, c'est 1000 journées, là, quand tu vis quelque chose, là, que tu es écrasé, tu vois ton conjoint écrasé, ça doit être épouvantablement difficile à vivre. Alors, un autre effet, c'est que ça peut... ça a un effet préventif et celui de la dangereuse et dommageable incompréhension. Les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre la dépression. Et souvent, ça conduit les chrétiens déprimés à voir la médication comme un rejet de Dieu. C'est comme si tu croyais que Dieu ne veut pas t'aider, puis tu es obligé de t'en aller, puis de te faire aider par la science médicale. Des fois, la science médicale elle a sa place. Alors, la cinquième raison, c'est parce que ça, en l'étudiant, ça peut ouvrir la porte à aider d'autres personnes. Plus on va savoir c'est quoi, plus on va savoir quoi dire, quoi pas dire, ça peut. Et aussi les personnes qui traversent la dépression, qui sont des chrétiens. Comme tout à l'heure, je vous parlais d'un pasteur qui a connu le problème. Mais c'est sûr que lui, dans sa congrégation, après qu'il en est sorti, il doit être un merveilleux aidant. Parce qu'il ne doit pas être la personne à jeter des blâmes, puis il doit être la personne à écouter, faire attention, prier beaucoup. Alors, le fait de traverser une dépression, ça peut être, ça a l'air drôle à dire, mais ça peut être quelque chose de positif dans le sens que ça prépare nos cœurs, nos esprits à avoir moins le jugement aiguisé envers ceux qui traversent des périodes comme ça. Alors, un croyant ou une croyante qui a traversé l'épreuve de la dépression va la rendre plus sympathique aux besoins et aux expériences des autres et deviendra par le fait même capable d'aider les autres. Alors, si nous voyons une personne luttant pour sa vie dans un froid sibérien, la dernière chose que cette personne aurait besoin serait de lui enlever son manteau. Une telle action serait cruelle et impitoyable et pourrait conduire à la mort. Et vous, le Proverbe 25, verset 20, nous dit: Celui qui chante des chansons à un cœur affligé est comme celui qui ôte son vêtement en un temps froid et comme du vinaigre répandu sur la terre, sur la nitre. Alors, comment dit, tu es en train de dire que celui qui chante des chansons à quelqu'un qui est déprimé, c'est la même chose que si quelqu'un serait à l'hiver, tu lui enlèverais son manteau. C'est pas le temps. C'est pas le temps de l'entendre chanter. Alors, nous verrons en détail plus tard dans notre étude comment les amis et les aidants doivent, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire à ceux qui vivent une dépression ou des troubles d'anxiété. La règle générale est la suivante. Ce sont ceux qui écoutent le plus et parlent le moins qui sont de la plus grande utilité à ceux qui souffrent. Ça, c'est donc vrai. Des fois, on est porté à pipi. Ça n'arrête pas le clapet, des fois. Des fois, tu serais mieux de te la fermer, comme on dit, et d'écouter tout simplement. Puis juste, moi, j'ai étudié le livre de Job en détail. On l'a fait en détail à Rouen. Et c'est un livre très, très, très. Il parle fort sur ce côté-là. Job était dans un état dépressif. Il y a pas de personne sur la terre qui a connu quelque chose d'aussi profond que lui. Puis ses amis n'arrêtaient pas de l'accuser de toutes sortes d'affaires. Autrement dit, il aurait été bien mieux de s'asseoir à côté de lui, juste manifester par leur présence: Je suis là à côté de toi, je ne comprends pas nécessairement ce que tu vis, mais je suis là. Juste le fait d'être là. C'est mieux des fois de rien dire que de dire une niaiserie. La sixième raison, c'est qu'on se doit de corriger l'incompréhension qui entoure ce problème. La dépression, bien entendu, c'est difficile à vivre pour n'importe qui, que ce soit celui qui le vit ou que ce soit son entourage. Elle est, cependant, je dirais qu'elle est pire pour un chrétien, parce que être déprimé dans une église locale pleine de personnes qui ne comprennent pas cet état et qui expriment leurs préjugés ouvertement est comme un avant-goût de l'enfer, selon l'auteur John Lockley, qui a écrit le livre A Practical Workbook for the Depressed Christian. Il a écrit un livre qui s'appelle le livre pratique pour les chrétiens déprimés. Et il dit que pour lui, là, être dans une église locale, puis de sentir les préjugés des autres, en plus de ta souffrance, il dit que c'est comme un avant-goût de l'enfer. Alors, mes frères, préparons-nous à ce que si jamais il y a des gens qui le vivent dans notre milieu, qu'on n'agisse pas comme ça. Je suis sûr que ce n'est pas le Seigneur qui veut ça. Il y a un stigmate de la honte qui est rattaché au fait de vivre une dépression. C'est souvent une profonde incompréhension concernant ses causes, ses symptômes et aussi ses remèdes. Cette incompréhension est normale jusqu'à un certain point parce que, contrairement au cancer, à la maladie du cœur ou à l'arthrite, il n'y a pas de test médical ou de scan qui peut démontrer visiblement l'existence de l'état de dépression-anxiété. Et vrai, hein? Les autres maladies, ils passent un scan, là, ils te déclarent, t'as le cancer. Tout le monde a de la sympathie pour toi. La dépression, il y en a qui disent, ben, hein, qu'elle se botter, ouais, puis qu'elle sorte de là-dedans, puis qu'elle fasse ci, puis qu'elle fasse ça. Moi, j'ai entendu Raymond Perron dire une expression qui m'a resté, parce que il dit, aujourd'hui, il dit, il y a tellement de monde dans les églises qui disent, à rien que, il n'y a rien qu'à, il n'y a rien que, alors rien qu'à. C'est complètement disjoncté. Les gens disent des niaiseries. À rien que. Tu sais, c'est comme s'il y avait des solutions simples, là, puis il y a un quelqu'un qui n'a pas pensé à ça. C'est comme. Il y a quelque chose de ridicule là-dedans. Alors, incompréhension normale jusqu'à un certain point, parce qu'il n'y a pas de scan, comme on dit, pour démontrer visiblement l'existence de l'état de dépression-anxiété. C'est une maladie invisible. À défaut de prouver qu'il y a un problème, il est facile de sauter à la conclusion qu'il n'y a pas de problème. Pour les chrétiens, l'on fait souvent une conclusion différente. Oh, le problème doit être de nature spirituelle. Et ça, j'avoue que dans certains milieux, c'est très répandu, cette manière de penser-là. Alors, cette sorte d'incompréhension est décrite avec intelligence dans l'excellent livre écrit conjointement par un pasteur chrétien et un psychiatre chrétien, et un maître de conférences chrétien en psychiatrie, qui s'intitule « I'm not supposed to feel like this ». Je ne suis pas supposé de filer comme ça. Et ils ont écrit, c'est trois personnes, un pasteur, un psychiatre et un conférencier chrétien qui ont écrit ce livre-là. J'avoue que ce serait mon prochain peut-être à lire ça, comprendre encore mieux le phénomène. Alors au début du livre, ces auteurs-là expriment clairement ce qu'ils croient et ce qu'ils ne croient pas en rapport avec la dépression chez les chrétiens. Voici ce qu'il dit. « Ce que nous croyons que tous les chrétiens peuvent expérimenter le souci, la peur, la colère, la frustration et la dépression. Nous croyons qu'être chrétien ne met pas à l'abri d'expérimenter des problèmes tels que le chômage, la maladie et d'autres difficultés pratiques de la vie. » Après ça, ils viennent de dire ce qu'ils croyaient. Maintenant, ils vont dire ce qu'ils ne croient pas. Ce que nous ne croyons pas, même si à l'occasion, nous choisissons d'agir de la mauvaise façon et que cela peut conduire à des conséquences déplorables à la fois pour nous et pour les autres, nous ne voyons pas l'anxiété et la dépression comme étant toujours le résultat du péché. Si nous ne croyons pas que nos problèmes de santé mentale soient le résultat d'un manque de foi. Alors, ils disent que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours parce que tu manques de foi, puis ce n'est pas toujours parce qu'il y a du péché dans ta vie. Il peut y en avoir, parce qu'il y en a toujours, on est des pécheurs, mais ce n'est pas toujours à cause qu'il y a un péché grave que tu n'as pas confessé ou que dont tu ne t'es pas repenti. La septième raison, c'est qu'on se doit, de considérer que c'est un talent qui doit être investi pour Dieu. Bizarre de se faire dire que la dépression peut être un talent. Parce que quand on regarde le chapitre 25, versets 14 à 30, le Seigneur, il dit qu'il nous a confié des choses, puis qu'après, il va demander des comptes à ce qu'il nous a donné. Alors, on va relire le passage rapidement, Matthieu 25, versets 14 à 30. « Car il en est d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, et à l'autre, 2. Et à l'autre, 1, à chacun selon ses forces, et il partit aussitôt. Or, celui qui avait 5 talents s'en alla et en trafiqua, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un s'en alla et creusa dans la terre et s'y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors, celui qui avait reçu 5 talents vint et présenta 5 autres talents, et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. » Son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc donner mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec de l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera et il aura encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors, et là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, on se doit de se rappeler que rien n'est perdu dans l'économie de Dieu, qu'on pourrait dire. Et ceci, bien entendu, inclut la dépression. Quand la dépression arrive dans la vie de quelqu'un, c'est parce que le Seigneur l'avait déjà décrété de toute éternité. C'est quelque chose qu'on a traversé, quelque chose qu'on a à vivre et qui peut amener quelque chose de bien aux autres après. Sur le coup, ce n'est pas nécessairement facile à vivre autant que ça, aussi facilement que ça. Alors, dans leur bouquin Mind Over Mood, écrit conjointement par Dennis Greenberger et Christine Padeski, illustre les bénéfices possibles de la dépression. Ils disent, par exemple, pour donner une illustration, une huître crée une perle à partir d'un grain de sable qui s'est introduit en elle, qui est un irritant. Pour elle, c'est un irritant. En réponse à cette irritation, l'huître crée une couche protectrice qui emprisonne le grain de sable et provoque un soulagement. Le résultat, une magnifique perle. Alors, de façon similaire, la dépression peut développer quelque chose en vous qui amènera du réconfort aux autres. Dieu utilise souvent les gens brisés. Il n'y a rien comme une personne qui a déjà traversé quelque chose pour comprendre un autre qui traverse le même problème. Et il y a vraiment pas la même attitude de quelqu'un qui juge, puis de quelqu'un. Il est vraiment là pour aider, il comprend, et il saute pas aux conclusions trop vite. Alors, les morceaux de. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent Elizabeth Elliot. Moi, j'ai déjà lu. Son mari, c'est un missionnaire qui est allé en Amérique du Sud. C'est une Américaine du 20e siècle. Elle est morte récemment, elle a à peu près 1 dizaine d'années. Elle avait eu une formation. Son mari a une formation. Son mari a décidé d'aller faire l'évangélisation chez les. Je vais le lire tantôt. Les Oka, en 1956. Il est arrivé là-bas, les Oka, ils ont sauté dessus, puis ils l'ont tué. Alors, Elizabeth Elliot, assez, c'est quoi la souffrance? Je vais vous raconter le reste de sa vie, puis je vous le dis que quand quelqu'un sait ce que c'est la souffrance, Elizabeth Elliot, assez, c'est quoi? Alors, les morceaux de vie brisée ont souvent pu nourrir une multitude, alors qu'un seul morceau n'aurait nourri qu'un seul petit garçon, comme on regarde quand on voit dans les Écritures, tu sais, le Seigneur, il y a un morceau, il y a un petit gars avec un morceau, mais. Il a utilisé cela pour multiplier les pains. Voici, je vais vous faire le résumé de sa vie très brièvement. Son mari et elle ont été missionnaires auprès de tribus amérindiennes, particulièrement les Oka. Mais après les premiers contacts, son mari et 4 autres missionnaires ont été sauvagement tués par des hommes de la tribu des Oka en 1956. Il est mort au bout de seulement 3 ans de mariage et leur fille n'avait que 10 mois. Imaginez. Elisabeth continua le travail missionnaire, ainsi que les autres femmes de missionnaires tuées. De suite, là, ça implique qu'elle avait une foi forte. Elle aurait pu dire, ben là, Seigneur, on veut devenir des missionnaires, puis tu te permets que mon mari soit tué. Voyons, non, ça dit bon sens. N'est-ce pas que c'est de même qu'on serait porté à réagir? Mais elle a dit. Le Seigneur nous avait envoyé ici. Elle a continué avec les 4 femmes des autres missionnaires qui ont été tuées sauvagement par les Oka. Et c'est pas tout, là. Ça commence. Elle est restée 7 ans de plus avant de retourner aux États-Unis en 1963. Elle s'est remariée en 1969. Son deuxième mari est mort après 4 ans après leur mariage. Elle s'est remariée une troisième fois. Cette fois-ci, ce fut sa propre mort qui les sépara en juin 2015. Mais j'avais lu avant, le deuxième mari, parce qu'elle ne dit pas dans la petite histoire ici, mais je l'avais déjà lu avant. Son deuxième mari, c'était un professeur d'école biblique. Et elle est retournée aux États-Unis, elle l'a rencontré, ils se sont remariés. Et après quelque temps, lui avait un cancer du cerveau. Le cancer du cerveau, apparemment, c'est le cancer le plus douloureux qu'il peut pas y avoir. Alors, elle venait de traverser que son mari avait été tué par là où il avait voulu aller être missionnaire. Son deuxième mari, elle l'a perdu dans ces circonstances-là, et elle s'est remariée trois fois. C'est un livre que quelqu'un voudrait lire. J'ai marqué une adresse web de ceux qui voudront lire dans le. Vous allez sur Internet et tout lire l'histoire d'Elizabeth Elliot, c'est passionnant. C'est passionnant, elle a une histoire très inspirante. La huitième raison, c'est que nous pouvons tous améliorer notre santé mentale et émotionnelle. Ce que j'ai apprécié du livre, c'est qu'à partir d'un certain moment donné dans le livre, il donne toute une série de questions que les personnes qui sont soit dépressives ou dans un état d'anxiété se devraient de se poser par rapport à leur relation avec les Écritures, certaines choses qu'ils vivent quotidiennement. Il y a un questionnement qui est dit dans le livre que je trouve très intelligent. Il dit que ça l'a aidé beaucoup de personnes. Alors, la plupart des chrétiens prennent des mesures préventives ou curatives pour jouir d'une bonne santé physique et spirituelle. Cependant, le niveau de conscientisation pour fournir un effort pour maintenir ou recouvrer sa santé mentale est moins élevé. Il y a moins de sensibilité aux stratégies bibliques et aux techniques qui peuvent être utilisées pour atteindre une bonne santé mentale et émotionnelle. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est pas que la Bible n'en donne pas des moyens, mais c'est qu'on ne les connaît pas, puis on ne les utilise pas. C'est ce qu'il veut dire en gros. Beaucoup de chrétiens et de pasteurs ont expérimenté des périodes dans leur vie qui peuvent être décrites comme des dépressions modérées ou des périodes de grande anxiété. Charles Spurgeon, c'est pas un deux de pique. Il a traversé des périodes dans sa vie où il était très déprimé. Alors, nous savons tous comment ces choses peuvent influencer notre manière de penser et affecter également notre santé physique. Parce que quand tu es déprimé, ce n'est pas juste ton mental qui fonctionne pas. Ça se répercute souvent sur ta santé physique également. Alors, on va chercher à instruire le peuple de Dieu à l'utilisation régulière de ces stratégies bibliques et à ces techniques pour soulager leurs souffrances. On va développer toutes ces idées-là dans les leçons qui vont suivre. Alors, la prochaine leçon nous apprendra l'attitude et l'état d'esprit que nous devons avoir lorsque nous étudions la dépression. Alors, quelques applications. La première, reconnaissons avec humilité que nous avons beaucoup à apprendre au sujet de la dépression et des états anxieux. Soyons disposés à vouloir vraiment aider nos frères et sœurs aux prises avec ce grave problème. Ne devenons pas des personnes qui augmentent la souffrance des autres avec nos préjugés et nos incompréhensions. Nous sommes tous portés à faire ce genre de choses-là. La deuxième application, relisons régulièrement les huit raisons pour lesquelles nous devons étudier ce sujet. On les renomme rapidement. La Bible en parle. Deuxièmement, c'est un problème commun, même chez les chrétiens. Troisièmement, la dépression a un impact sérieux sur notre vie spirituelle. Quatrièmement, si on le fait, on peut contribuer à prévenir ou à rendre moins grave l'état de dépression. Cinquièmement, c'est que ça l'ouvre des portes à l'utilité envers les autres. Sixièmement, c'est qu'elle est tellement incomprise qu'on a besoin d'ouvrir la compréhension des gens. Et septièmement, elle est un talent, entre guillemets, qui peut être investi pour Dieu. Et huitièmement, nous pouvons tous améliorer notre santé mentale et émotionnelle. Et la troisième et dernière application, confions-nous entièrement au Seigneur et faisons-lui confiance par sa grâce et pour sa gloire. Amen.